cobuzz.com. Rencontre par Marc Zisman.
Bonjour Emmanuel Pahut.
Bonjour.
Alors vous publiez un nouvel album qui s'intitule Fantasy, A Night at the Opera, qui n'est pas, je pense, après avoir écouté un hommage au, à la nuit à l'opéra des Marx Brothers, mais tourne autour, comme son nom l'indique, plutôt de transcription d'opéra. Alors avant de nous parler du pourquoi de cet album, de comment il a été réalisé, etc., on ne va pas non plus peut-être détailler toute votre carrière, tout votre parcours, votre CV qui est assez impressionnant. Tant au niveau des collaborations, au niveau de l'éclectisme du répertoire. C'est vrai qu'on dit toujours Emmanuel Pahut, grand flûtiste, et le flûtiste du Philharmonique de Berlin. C'est un peu genre ce qu'on met en avant, mais il y a quand même beaucoup, beaucoup d'autres choses à côté. Donc revenons peut-être d'abord à cet album. Pourquoi ? Quelle était l'idée de départ ? Comment ça s'est réalisé ?
L'opéra, c'est le spectacle total, c'est le truc qui fait rêver. Moi, ça m'a fait rêver quand j'étais gamin, quand j'avais 5 ans, 6 ans, 7 ans. J'ai entendu toutes ces musiques, toutes ces opéras. Et j'ai eu la chance de découvrir après que des gens ont fait des versions, des arrangements pour flûte et piano, des versions de salon, ou des fantaisies virtuoses pour mettre en... présenter la flûte sous un angle soliste et très virtuose. Et en voyant tout ce répertoire, je me suis dit, bon, c'est le moment est venu aujourd'hui, parce que j'ai toujours ces souvenirs, ces temps forts, ces voix que j'ai entendues quand j'étais gamin et ces spectacles qui sont restés aussi forts. Et j'avais absolument envie d'enregistrer un répertoire comme ça, le jouer en concert, mais vraiment comme à l'opéra, c'est-à-dire j'ai remplacé le piano par le grand orchestre, comme il était écrit par les compositeurs Verdi, dans Rigoletto, Traviata, Bizet dans Carmen, Tchaïkovski dans Eugène Onéguine, par exemple, ou Mozart dans La Flûte Enchantée.
Est-ce que ça veut dire que ça vous donne une vision différente de votre instrument sur un répertoire qui, justement, à la base, est chanté ?
Oui, bien sûr, ça permet de montrer, et pour moi, de rechercher, d'aller vers des limites qui jusque-là m'étaient... que je chatouillais un petit peu, mais qui sont pour la plupart d'entre nous un peu insoupçonnés, parce que finalement la flûte, c'est un instrument qui est très libre, on n'a pas de résistance à vaincre de la part de l'instrument lui-même, on est très proche de la voix comme technique, on peut vraiment chanter comme une soprano, on peut vraiment laisser résonner comme une basse aussi, et entre ces deux extrêmes, on a toute une palette de couleurs et de possibilités d'expression. Que j'ai essayé de mettre au service de cette musique à travers cet album, qui contraste beaucoup avec les albums précédents que j'ai faits. Celui d'avant, c'était la musique baroque avec des sonates de Bach. Celui d'avant, c'était les concertos modernes pour flûte qui ont été écrits pour moi en 2006-2007. Donc il s'agit de choses très différentes, mais très complémentaires pour moi, qui font partie de mon univers musical, en évolution en permanence.
C'est aussi un moyen, aussi un côté un peu carte de visite par rapport à l'instrument lui-même, c'est-à-dire pour un public... C'est un instrument qui est souvent mis un peu de côté. Il n'y a pas autant de solistes flûtistes qu'il y a de pianistes. Enfin, c'est une scène, mais bon, disons que est-ce que c'est aussi un côté justement de montrer un peu toutes les capacités, toutes les possibilités de l'instrument, même si vous êtes un peu l'ambassadeur de tout ça en jouant de Elliot Carter au baroque, on va dire.
Effectivement, il faut structurer un petit peu le dialogue quand on se présente sur scène avec des programmes très différents. Il faut montrer que tout ça est possible, mais ce n'est pas non plus un catalogue de tout ce qu'on fait. Il faut faire des choses auxquelles on croit, et dans lesquelles on croit. Et je crois que c'était important pour moi de mettre la flûte en scène à l'opéra, avec l'orchestre dans la fosse, et vraiment d'installer la flûte comme une diva sur la scène, en dialogue en permanence avec le chef, et en train de faire vraiment les différents caractères, les différents personnages qu'il y a à l'opéra. Parce qu'on a toutes ces fantaisies, elles ont déjà été enregistrées en flûte et piano par certains de mes confrères dans les générations précédentes, ou toujours aujourd'hui, mais ça c'est vraiment la première fois qu'on remet la flûte dans le contexte original du compositeur tel qu'il a voulu. J'ai fait réorchestrer quatre des pièces qui sont sur cet album, en reprenant l'original tel qu'il avait été voulu par le compositeur. Et ça me semble être quelque chose de très important. Quand on démarre le CD, on entend la Traviata tout de suite et on est dans la première scène de la Traviata, on est au bal tout de suite.
Vous dites que ce n'est pas une histoire de catalogue, en même temps c'est effectivement de faire des choses dans lesquelles on croit, logiquement. C'est vrai que quand on regarde, et comme sans citer tout ce que vous avez fait, on a l'impression que vous croyez en énormément de choses. C'est des choses assez, assez vastes. Ce côté un peu caméléon de passer du jazz au baroque, etc. Est-ce que, alors, je ne vais pas faire du Freud de seconde zone, mais il y a une quête permanente de soi-même. Comment ça... Je crois que vous avez passé toute votre enfance, vous avez énormément voyagé, vous avez beaucoup bougé. Votre carrière, évidemment, vous fait vraiment bouger en permanence. On a l'impression que c'est la même chose dans les répertoires, finalement. Vous voyagez en permanence dans tous les styles de musique. Enfin, je crois aussi que vous êtes un fan de jazz. Donc c'est quand même quelque chose... Alors évidemment, je sais qu'il n'y a pas le côté de vouloir dire « je peux faire ça », que ce sont vraiment des choses dans lesquelles vous croyez. Mais comment vous, justement, vous évoluez là-dedans? Est-ce que pour vous, finalement, tout ça, c'est la même chose ou pas?
Ce sont des musiques différentes, et pour moi, c'est la musique. C'est ma vie. C'est ma vie avec la musique. C'est une façon de couvrir un petit peu tout ce qu'on peut faire comme bonne musique avec la flûte. C'est pour ça que je joue à l'orchestre au Philharmonique de Berlin, toujours aujourd'hui après 20 ans de carrière, et c'est pour ça que je fais de la musique baroque, je fais du jazz, je fais des choses dans lesquelles je crois, et je prends dans chaque époque, ou dans chaque style, ou dans chaque type de musique, j'essaie de prendre les choses qui me semblent être les plus fortes, là où je peux essayer d'être le plus vrai possible, et je m'associe toujours à des gens qui sont éminemment reconnus dans dans cette branche, justement, comme un Trevor Pinnock, par exemple, pour le baroque. Comment dire, pour moi, ça fait partie de tout mon univers musical. Il est évident que si j'étais pianiste ou si j'étais violoniste ou chanteur, j'aurais dû me spécialiser dans un style ou un autre. On ne fait pas de l'opéra, du lied et de la chanson, de la variété avec la même voix. Et j'ai la chance que la flûte est un instrument aussi beaucoup plus résistant que les cordes vocales, par exemple, et où le répertoire, finalement, a beaucoup de belles choses, beaucoup de perles, mais elles sont un peu disséminées à travers les époques et sur des styles et des continents différents. Et ça me permet vraiment d'essayer de servir ça le mieux possible. Et pour moi, en voyageant, à chaque fois, de rencontrer des gens, de me nourrir un petit peu de ces rencontres culturelles et de rendre ça musicalement après.
C'est plus s'il y a des rencontres, finalement, qu'il y a des partitions. C'est-à-dire que c'est parce que vous allez rencontrer telle personne qui s'avère jouer tel type de musique que vous allez avoir envie vraiment de vous plonger dedans.
C'est lié à la fois aux rencontres et aux partitions. Par exemple, j'étais admiratif quand j'ai entendu les concertos brandebourgeois par Trevor Pinnock dans les années 80, ou quand j'ai entendu les 4 saisons par Fabio Biondi. Et c'est des choses qui m'ont motivé à rencontrer ces gens-là, à essayer de faire des projets avec eux. J'étais admiratif quand j'ai entendu des pianos solos de Jacky Terrasson. C'est des choses qui font qu'on a envie de rencontrer ces gens-là. Et bon, ben, 20 ans plus tard, 25 ans plus tard, je rencontre Trevor Pinnock, je fais les sonates de Bach avec lui. Là, j'ai rencontré Yannick Nézet-Séguin, merveilleux, fantastique, sacré bonhomme, musicien et chef incroyable, quelqu'un qui a un magnétisme et une force incroyable. Pour convaincre les gens, que ce soit l'orchestre et le public, tout le monde est sous le charme. Et je l'ai rencontré il y a quelques années, on jouait un concerto ensemble à Lyon, et tout de suite c'était une sorte de coup de foudre, et on a pensé à différents projets, à ce qu'on pourrait faire ensemble. Et c'est l'une des premières fois que je suis associé à un musicien qui est un peu plus jeune que moi dans un projet comme ça. D'habitude j'avais plutôt des seniors autour de moi, ou des gens de ma génération, de mon âge. Et là c'est la première fois que c'est quelqu'un qui a grandi avec ma discographie, par exemple. Et c'était très curieux de voir avec quelle facilité et quelle évidence on s'est retrouvé dans le même langage musical, alors qu'on fait un disque d'opéra avec des styles très différents. On a du baroque avec Gluck, on a du classique avec Mozart, on a du russe avec Tchaïkovski, on a de l'italien, et puis on a Carmen, bien sûr.
Comment on passe de, vous avez parlé de Trevor Pinnock au début, de fan finalement à acteur, d'avoir l'envie de la rencontre, mais surtout de converser musicalement, c'est-à-dire de ne pas juste être admiratif et d'apporter sa voix et de briser un peu l'angoisse, le trac ou quoi que ce soit. Est-ce que ça, comment ça fonctionne ? Naturellement finalement ou, alors évidemment maintenant c'est peut-être plus facile à dire parce que vous avez un nom, vous avez un style, etc. Mais est-ce qu'il y a au début de toutes ces collaborations-là, il y a eu vraiment ça s'est fait facilement pour vous ?
Quand on a des rencontres, il faut que ça se passe dans, il faut que le courant passe dans les deux sens. Il faut qu'il y ait un échange humain, effectivement. Et la première fois que j'ai rencontré un Trevor Pinnock, on a fait une répétition ensemble à Salzbourg. Et ensuite, on prenait le train pour Vienne, donc 3h30 de train. Et on a bavardé comme deux gamines ou deux adolescentes. On a bavardé comme des pipelettes, ça m'arrive rarement. Mais à chaque fois qu'il y a des rencontres comme ça, on a plein de choses à se dire. Et où la conversation se fait naturellement et on se rend compte qu'on a plein d'atomes crochus et qu'on a envie de faire plein de musique ensemble. On se dit, bon, bah, où est-ce qu'on va commencer ? On essaie de structurer tout ça. Et là, cette rencontre, c'était des concertos de Mozart, il dirigeait. Et puis, on s'est dit, bon, bah, puisqu'on est en tournée la semaine prochaine, on va lire les sonates de Bach ensemble et essayer de voir à partir de là qu'est-ce qu'on peut faire. Et puis, le contact était tellement enthousiasmant qu'on a concrétisé ça très, très rapidement. Les rencontres se passent comme ça, avec Yannick Nézet-Séguin, même chose, première répétition, on se dit tout de suite, oh, après, qu'est-ce que tu vas faire ? Viens, on va manger quelque chose, et puis voilà, on bavarde pendant un certain temps, et on développe tout de suite une amitié qu'on a l'occasion d'approfondir, justement, par des collaborations renouvelées. Quand on va ensemble au studio, et qu'on passe deux journées, du matin jusqu'au soir, à mettre au point l'interprétation de la musique et à faire attention à soigner le moindre détail, etc. On est vraiment sans protection. Il faut se laisser aller complètement, se livrer complètement. Et c'est là où le respect qu'on peut avoir l'un pour l'autre doit être quelque chose qui n'implique pas la peur, mais au contraire l'ouverture.
Le Philharmonique de Berlin, ça reste, par rapport à tout ce que vous faites, c'est toujours là, c'est toujours à côté de vous depuis longtemps, parce que vous aviez, je crois, une vingtaine d'années, 22, 23 ans, quand vous l'avez intégré. On a l'impression que c'est un vital, il y a un côté un peu une sorte de poumon d'oxygène qui vous permet, parce que c'est, déjà c'est un orchestre, c'est philharmonique, c'est pas l'un des moindres en plus. Est-ce qu'il y a un côté ressource permanente ? Comment cette position a évolué depuis toutes ces années ?
Le Philharmonique de Berlin, c'est mon deuxième orchestre. J'ai fait mes classes avant à l'Orchestre Radio Symphonique de Bâle. J'ai appris pas mal de choses là-bas. Et tout a été beaucoup plus facile à Berlin. C'est plus facile avec un bon orchestre qu'avec un moins bon orchestre. Quand on a des musiciens qui sont tellement engagés, qui ont quelque chose à dire, comme ça, la force qui les fédère est tellement évidente, tellement claire, pour moi, c'était une grande école. Après le conservatoire, j'ai continué à apprendre tellement de choses là-bas, à rencontrer les plus grands solistes, les plus grands chefs et à jouer avec les plus grands musiciens. Et puis de fil en aiguille, c'est quelque chose qui finalement est un peu qu'on est un facteur d'équilibre, un centre pour moi, qui est un peu la maison, la famille aussi, depuis maintenant une vingtaine d'années. Et d'abord, c'est une ville où on vit très bien. Aujourd'hui, c'est un moment historique après la chute du mur, d'arriver quelques années après là-bas et de faire partie de cette reconstruction, ce nouveau visage de Berlin aujourd'hui.
C'est le cas aussi même pour l'orchestre lui-même. Vous êtes arrivé à un moment où l'orchestre aussi changeait quand même assez radicalement, progressivement.
L'orchestre se renouvelait complètement. La génération d'après-guerre partait à la retraite et c'était le rôle d'Abado d'intégrer toutes les nouvelles recrues. Maintenant, avec Rattel, on en fait quelque chose de très différent puisque le répertoire a été complètement transformé. Il fait un petit peu avec l'orchestre que je fais moi avec la flûte, c'est-à-dire des répertoires très très différents, en délaissant peut-être un petit peu les standards, mais qu'on retrouve avec d'autres chefs invités également. Et on a, comment dire, pour moi, il y a aussi ce côté système cœur-poumon qui fonctionne, que je sois là ou que je ne sois pas là, effectivement. D'abord, c'est géographiquement à l'intérieur de la ville, cette philharmonie, juste à côté du parc, du Central Park de Berlin. C'est vraiment le système cœur-poumon de la ville, culturellement. Et puis pour moi aussi, que je sois loin ou que je sois à Berlin, que je sois en tournée, c'est toujours en train de pulser, de continuer à vivre. Il se passe toujours quelque chose de nouveau chaque semaine. Chaque musicien qui joue là-bas est engagé. Il apporte quelque chose de personnel également. Il nourrit, non pas que ce soit l'auberge espagnole complètement, mais parce qu'on a vraiment un intérêt commun supérieur qui nous réunit tous. Et donc, ça donne une ligne de force incroyable.
Comment vous avez vu l'évolution de l'orchestre que vous avez suivi, même presque avec Rattel, avec son arrivée, etc. Comment vous avez vu ces années passées? Pas bilan, parce que bilan, ça veut dire que c'est fini, mais si on fait un point, on va dire aujourd'hui, comment vous voyez l'évolution de cet orchestre par rapport à justement à ces changements, comme vous avez dit, de répertoire, de casting même, etc.
Alors effectivement, quand j'ai rejoint l'orchestre, c'était le milieu de la période Abado à peu près, et les vieilles générations avaient beaucoup de mal à s'ajuster. Après quelques années, l'une de miel était un peu difficile, on va dire. Avec Rattel, même phénomène. Après quelques années, c'était entre l'orchestre et lui, ça semblait difficile. Il y avait beaucoup de choses où il semblait avoir beaucoup de résistance d'un côté comme de l'autre. Et puis finalement, la maturité de la relation aidant, on sait ce qu'on peut faire, il sait ce qu'il peut faire, et on sait ce qu'on peut faire ensemble. Et on cultive ça, on développe ça. Akarayan a eu une quarantaine d'années pour faire ça avec l'orchestre. Donc il faut voir les choses à long terme. Mais aujourd'hui, on a un orchestre où tous les chefs invités qui viennent trouvent l'orchestre dans un excellent état, dans une forme incroyable. Le rajeunissement des années 90 et début des années 2000 fait qu'on a une formation relativement jeune, avec moins d'a priori ou d'idées préconçues que c'était le cas encore dans les années 80, finalement, avec toute la tradition des années, et le poids peut-être même des années Karajan. Mais en même temps, on voit que tous les gens qui jouent dans cet orchestre ont tous cette connaissance du passé, des enregistrements, et le fait de parler. On voit nos anciens collègues, ils viennent toujours écouter les concerts. J'en connais quelques-uns qui ont... J'ai même eu des cours avec un flûtiste, Aurélien Nicolet, qui était le flûte solo après la guerre, sous Tchelibidak pendant quelques années, et Fort Wengler pendant quelques années, et qui a quitté l'orchestre au moment où Karajan est arrivé, à peu près. Donc c'est tout un héritage culturel qui est toujours vivant, mais c'est à nous de transformer cette tradition, de la faire avancer, de faire évoluer et de faire en sorte que nous soyons un des meneurs dans le domaine orchestral, en tout cas des phalanges symphoniques pour le 21e siècle, à l'heure de plein de changements, de la vie sur Internet, de toutes ces choses-là. C'est important et c'est significatif qu'on soit le premier orchestre à placer tous nos concerts d'abonnement, par exemple, sur un nouveau média via Internet.
Ces changements, justement, comment vous les... Vous avez décrit pour le pourquoi de ce nouvel album, votre envie par rapport à ce projet-là. Ça représente quoi pour vous un album en général? C'est-à-dire la musique enregistrée, un disque, même si l'idée de disque commence à disparaître. On va bientôt parler de pistes, mais sous cet aspect-là aussi, pareil, on est comme vous venez de le dire, dans une période de chamboulement total.
Oui, l'évolution de la distribution musicale, en tout cas, et des formes de distribution musicale est incroyable. Moi, j'ai grandi avec les micro-sillons. Et puis ensuite est arrivée la musique cassette, puis le CD. Mais avant la musique cassette, j'avais déjà, à 7 ans, je jouais du Revox, des bandes magnétiques avec l'appareil de mes parents. J'enregistrais des trucs à la radio. Et j'écoutais tout ça. Pour moi, le support... musical, auditif en tout cas, est tellement important parce que c'est un langage qui est très fort, qui permet à tout le monde de s'imaginer librement Qu'est-ce que le compositeur a bien pu vouloir dire, et sans avoir la limitation ou sans avoir à lui imposer une image en même temps. Donc ça permet vraiment de rêver et d'ouvrir des horizons incroyables. Et pour moi, ce que ça représente un enregistrement, donc j'en ai fait une bonne vingtaine, en tout cas en soliste, mais en orchestre aussi une bonne vingtaine, c'est vraiment le témoignage de ce qu'on peut faire de mieux à ce moment-là, dans cette direction-là, dans ce style-là, dans cet esprit. On a un concept et on essaie de l'engager. Et c'est un jalon, c'est un repère de vraiment de ce qu'on peut faire de mieux à ce moment-là. Et quelques fois, quand j'écoute des par hasard, des fois j'ai entendu ça passer à la radio, j'étais sur la route, où je retrouve des choses. Et justement, je me dis, tiens, ça me rappelle quelque chose. Et puis tiens, il est pas mal ce flûtiste, ou c'est doué, etc. Et puis voilà, ce sont mes premiers enregistrements. Ça fait bizarre, et quelque part, c'est bien aussi de mesurer le parcours qu'on a fait, de voir qu'on ne s'est pas arrêté non plus, il y a 15 ans, il y a 20 ans, mais qu'on a continué à évoluer, qu'on voit la musique aujourd'hui autrement, qu'on reconnaisse une certaine fraîcheur, un engagement, et qu'on ne le renie pas, mais simplement de voir qu'on a évolué. Ça, c'est quelque chose de très fort pour soi-même, mais je crois que pour les gens, pour recevoir un enregistrement aujourd'hui, il s'agit vraiment d'avoir quelque chose à dire dans cette musique. Et là, quand on fait un album sur des musiques d'opéra, il y a un texte aussi, il y a des personnages, il y a toute une mise en scène autour. On a des chanteurs depuis des générations, à commencer par Callas par exemple, qui ont servi cette musique. Et donc moi j'ai tout ça en tête. Et bien sûr, sans connaître le texte ni la situation de l'opéra, ni le côté dramatique, je crois qu'on ne pourrait pas servir cette musique.
Dans votre éducation musicale. musicale quand vous étiez plus jeune. Vous étiez discophile, vous achetiez des disques en permanence, collectionneur, vous étiez complétiste. Enfin, comment ce rapport justement avec le support, avec l'objet?
C'est vrai que j'avais une manie, c'était de m'acheter plutôt des intégrales que des sélections ou des compilations. Je sais pas pourquoi, mais j'aimais bien écouter et pouvoir me promener, pas seulement dans mes favoris, mais qu'est-ce que ce compositeur a bien pu faire d'autre aussi, qui est peut-être moins connu ou qui m'est pas encore tout à fait connu, mais qui me permettait de découvrir comme ça, justement. J'ai grandi, ouais, d'abord avec le micro-sillon dans les années 70 et puis après avec le CD dans les années 80. Donc une phase où la musique était très, 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 très importante. Et je crois qu'aujourd'hui, le support a changé, mais tous les ados qui ont un téléphone, c'est un baladeur en même temps. Enfin, on a changé de support, on n'appelle plus ça un Walkman ou un baladeur, comme on appelait ça avant, ou un Discman, mais chacun porte avec lui de quoi écouter la musique, et le fait, justement.
Et vous, comment vous avez évolué par rapport à ça? Vous êtes toujours avec vos CD et vos vinyles? Est-ce que vous téléchargez? Vous écoutez, est-ce que vous avez un iPod en permanence quand vous êtes sur la tête, quand vous êtes dans un avion?
Oui, j'ai tout ça, j'ai toutes les différentes possibilités à la maison. J'ai gardé tout ce que j'avais dans les années 70, et j'utilise avec plaisir aussi. Et puis les nouvelles technologies, bien sûr, que ce soit du download, si possible en haute qualité, parce que pour le classique, c'est quand même important, mais pas seulement pour le classique, on entend vraiment dans le mastering, le mix. On se donne tellement de mal à la post-production, dans le pop, quand on entend les albums de Michael Jackson, par exemple, ou le boulot que fait Quincy Jones, là derrière, c'est immense. Et écouter ça après, trop comprimé, c'est vraiment dommage. Et c'est pas rendre justice à la musique telle qu'elle a été conçue. C'est la même chose pour nous quand on fait du classique. Et là, on essaie de mettre en scène la flûte à l'opéra. Il faut lui donner toute sa dimension. Et je crois que c'est important d'avoir ça dans la plus haute qualité possible. Et moi, j'utilise tous ces supports différents. Bien sûr, j'ai des téléphones portables, j'ai des iPods, des baladeurs, des trucs MP3. Et il faut utiliser tout ça. Et je teste toujours, avant de faire le mix final pour le mastering pour mes albums, je teste toujours la dernière version sur différents supports pour voir que ça fonctionne bien dans différents environnements.
Quand vous écoutez de la musique, vous écoutez des choses assez différentes de ce que vous faites?
J'écoute souvent autre chose que du classique, effectivement. J'écoute souvent du rock pop ou du jazz. Je trouve que les radios ont un peu tendance, en tout cas là où je vis en Allemagne, en ce moment, à passer beaucoup de musique des années 80, comme si on était resté un petit peu...
C'est le recyclage permanent, de
toute façon. Oui, voilà. Si on était resté un petit peu dans cette phase un peu mélo-sentimentale, comme ça, comme il y avait à l'époque. Bon, ça me fait sentir toujours éternellement jeune, un petit peu, et ado, comme ça, quelque part, parce que j'ai des souvenirs et des situations qui remontent pour moi. J'ai des situations, quand j'avais 13 ans, j'ai l'impression que c'était hier, alors qu'il y a des choses, des rencontres que j'ai faites il y a 3 ans, j'ai l'impression que c'était le siècle dernier. Et c'est marrant comme... Avec la musique, on peut justement voyager dans le temps et se replonger dans des phases de vie qu'on croyait oubliées. Et de quelle façon ça peut faire ressurgir ces souvenirs avec une telle intensité.
Vous écoutez aussi la flûte dans des univers vraiment différents du vôtre? Je ne sais pas, c'est en musique indienne par exemple?
Alors si j'écoute de la flûte, effectivement, bon, j'ai pas beaucoup le temps d'aller au concert parce que je joue un soir sur deux. Mais c'est vrai que si j'ai l'occasion, je vais écouter des flûtes du monde, voir un petit peu ce que font d'autres...
Chorassia passe à Berlin.
Par exemple, d'autres cultures, ça peut être la musique indienne, ça peut être la musique des Andes ou vénézuélienne, ça peut être des flûtes chinoises ou japonaises. On a beaucoup, aussi en Australie ou en Afrique, on a beaucoup de flûte dans les différentes cultures du monde entier, et la flûte est toujours utilisée dans les rites depuis l'Antiquité, même depuis le début de l'humanité. Et je crois que c'est un instrument qui avait beaucoup de possibilités expressives à une époque très primitive, à un stade très primitif de la musique. Après, il était rattrapé par d'autres instruments comme le piano, le violon, la clarinette, le cor, qui était beaucoup plus virtuose. Et puis, au milieu du 19e siècle, on a une nouvelle flûte avec le métal, la mécanique, une nouvelle acoustique qui était beaucoup plus puissante, beaucoup plus expressive. Et c'est là qu'on a commencé à faire toutes ces pièces virtuoses, ces paraphrases sur des airs d'opéra, à faire tout ce grand répertoire, finalement, et redonner à la flûte, comme elle l'était déjà à l'époque baroque, et à l'époque classique, son statut d'instrument soliste.
Qu'est-ce que vous avez envie de faire prochainement, aussi bien au disque que sur scène?
Sur scène et au disque, j'ai envie de cultiver un petit peu des extrêmes, c'est-à-dire d'aller chercher la flûte en soliste avec un grand orchestre, cette fois-ci dans du répertoire très romantique, et puis aussi d'aller vers du solo.
Vous avez déjà des pièces précises en
tête ? J'ai des pièces précises en tête, mais bon, la construction du projet n'est pas encore, complètement assurée, donc c'est pas du top secret, mais j'en ai déjà dit trop pour ça, mais c'est en construction, on va dire, et je ne sais pas quand ni comment ça va se réaliser exactement, mais je sais que ça se fera. Et puis également faire du solo, la flûte est un instrument qui a, dans l'époque baroque, comme je disais, classique, et puis maintenant le moderne et le contemporain, et les impressionnistes aussi, a eu un pouvoir évocateur, et qui a servi également de support à la musique dansée pendant très longtemps. Donc il y a deux parties, une partie qui est dansée, une partie qui est beaucoup plus spirituelle, dans le répertoire pour flûte toute seule. Donc là, je vais aller plutôt vers la nudité, on va dire, de l'instrument solo, et essayer de mettre en valeur, vers la nudité de l'instrument solo, et essayer de mettre en valeur la souplesse et la richesse du timbre qu'on peut avoir sur la flûte.
Le contemporain, travailler avec en collaboration avec un compositeur, il y a un côté assez unique. Quand on travaille actuellement, on joue essentiellement de la musique de Jean Maur.
Ouais, quand j'ai rencontré Jacques Terrasson, je me suis retrouvé sur scène pendant plusieurs heures avec des jazzmen. Non pas que j'en sois un moi-même, mais disons que j'ai dû naviguer avec eux et puis j'ai évolué dans ce domaine. Il y a eu des moments où c'était très fort. Et c'est là où on perçoit à la fois le côté de la création, donc le travail, la relation avec les compositeurs contemporains, et puis en même temps le côté improvisation ou le côté structuré de la musique, comme il existe dans la musique baroque aussi, chez Bach. Et donc j'ai appris beaucoup à ce moment-là, ces quelques années-là, passées en tournée et dans les studios avec Jacques Terrasson et son trio, sur les albums que j'ai fait après, les Bach, les Telemann, les albums de musique contemporaine aussi, et l'approche qu'on peut avoir, l'échange qu'on peut avoir avec un compositeur dans la phase de la création. Moi, j'essaie d'interférer le moins possible avec le compositeur.
Vous avez créé, je crois, une œuvre de Carter.
J'ai créé l'année dernière une œuvre de Carter. Cette année, j'ai créé une œuvre de Lombardi, un compositeur italien. Depuis 2005, je crée un concerto par an. Et je continue encore. J'ai des commandes pour les années à venir.
Donc, dans ces exemples-là, en général, il y a la conversation, l'échange avec le compositeur. Et vous essayez de le réduire le plus possible.
J'essaie dans la phase créative du compositeur d'interférer le moins possible, c'est-à-dire de laisser rêver, de laisser aller chercher des choses qui pourraient sembler impossibles, et c'est après à moi de réaliser et d'approcher le plus possible de ce qu'il a bien pu vouloir penser à ce moment-là. Bon, j'essaie d'être le moins limitatif possible. Si c'est écrit pour moi, taillé sur mesure, il n'y a que moi qui pourrais le porter, vraiment. Et donc, c'est pas servir la postérité de l'œuvre à ce moment-là. Au contraire, je pense qu'une fois qu'elle est publiée, cette œuvre, a fortiori une fois qu'elle est enregistrée, mais en tout cas, quand elle est publiée, n'importe qui peut acheter la partition, peut la jouer. Et le bébé, il est né, il doit apprendre à vivre tout seul à ce moment-là. Et si je peux aider à permettre à ces œuvres de venir au jour et puis de commencer une belle vie, de naître sous les meilleurs auspices, on va dire, c'est la moindre des choses que je puisse faire en tant que musicien actif.
Et l'écriture ?
L'écriture, c'est pas pour moi. j'ai pris des
c'est
cours.
Radical, ça.
Non, j'ai pris des cours d'écriture, j'ai pris des cours de piano aussi, j'ai pris des cours de théâtre, j'ai fait plein d'autres choses qui m'ont donné des perspectives. J'ai fait du foot aussi, qui ont des perspectives différentes sur la vie et sur qui me servent beaucoup dans l'approche que je peux avoir sur un morceau et resituer un compositeur et dans son époque et dans son environnement et pourquoi et comprendre mieux pourquoi il a écrit ça à ce moment-là. Bien sûr, c'est important. Et donc c'est important d'avoir des notions d'écriture pour ça. Mais je crois que l'acte d'interprétation et l'acte de création sont deux actes très différents et qu'on trouve à l'heure actuelle que chez les jazzmen ou les gens qui font des musiques traditionnelles. Et encore, là aussi, les formes sont parfois très très figées. Et ça peut sembler improvisé pour nous parce qu'on est étranger à ce langage, mais là aussi, il y a des codes. Il y a des points de référence et des structures qui sont quand même très 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 fortes. Bon, comme dans tout langage, on utilise un vocabulaire, on a des règles d'orthographe et de grammaire, sinon on ne pourrait pas se comprendre. Ouais. C'est clair.
Merci Manuel Pahut.
Merci.
Cobuzz.com Rencontre par Marc Zisman.